avoir raison avec Ayn Rand par Xavier Delaporte. Aujourd'hui, Ayn Rand et les libertariens. Avoir raison avec Ayn Rand, ça pourrait être un des slogans du courant libertarien aux États-Unis, car l'écrivaine et penseuse américaine d'origine russe, dont nous avons raconté la vie et la vie intellectuelle dans les épisodes précédents de cette série, est une des figures importantes de ce courant intellectuel et politique qui irradie la vie américaine depuis les années 60. À travers ses deux romans, La Source Vive, paru en 1943, et La Grève, paru en 1957, à travers aussi les éléments de sa philosophie qu'elle a nommée elle-même l'objectivisme, et puis les disciples aussi qui se revendiquaient, Ayn Rand a largement participé à l'élaboration de cette pensée libertarienne qui non seulement a une importance historique non négligeable, mais continue d'être influente dans la vie politique, intellectuelle et même économique de l'Amérique d'aujourd'hui. Et c'est donc des rapports entre Ayn Rand et le libertarianisme que nous allons parler aujourd'hui avec vous. Sébastien Carré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes 1. Vous avez été l'auteur d'une thèse sur le mouvement libertarien aux États-Unis, ainsi que de deux livres. En 2009, c'était La pensée libertarienne, Genèse, fondement et horizon d'une utopie libérale au PUF, et puis en 2010, Les libertariens aux États-Unis, sociologie d'un mouvement asocial, c'était aux presses universitaires de Rennes. Alors d'abord, Sébastien Carré, comment est-ce que vous avez rencontré, vous, Ayn Rand?
Alors, j'ai emprunté en fait le chemin inverse que celui qu'empruntent habituellement ceux qui prennent connaissance avec le mouvement libertarien, puisque je connaissais le libertarianisme avant de connaître Ayn Rand. En fait, c'était simplement pour mon travail de thèse. Et un passage obligé, c'est bien sûr de lire Ayn Rand.
Alors peut-être que pour voir comment se fait la connexion entre Ayn Rand et le libertarianisme, il faut juste, alors c'est très compliqué, c'est l'objet de votre thèse qui doit faire 800 pages, de raconter et de décrire ce que c'est que ce mouvement libertarien américain. Qu'est-ce que c'est que le libertarianisme, Sébastien Carré?
Alors, bon, pour simplifier, on peut dire que c'est d'abord un positionnement politique qui associe trois principes. Important, la défense des libertés économiques, donc des réglementations du marché, démantèlement de l'État-providence, mais aussi défense des libertés individuelles, donc légalisation de toutes les drogues, défense de la liberté d'expression la plus totale, défense de la pornographie, etc., etc. Et puis, à cela s'ajoute une troisième position, un peu moins importante que les autres, mais tout de même, qui est, disons, une position isolationniste et une résistance contre l'impérialisme américain. Et ces trois positions ont été tenues historiquement, disons, se sont regroupées dans les années 60. C'est là que le mouvement naît, en fait, autour d'un mariage assez improbable entre, d'un côté, des militants plutôt à la droite du Parti républicain de l'époque, qui vivaient de plus en plus mal la compagnie avec les conservateurs, de plus en plus traditionnalistes, et de l'autre côté, des militants de la gauche contestataire, de la contre-culture américaine. Et ce mariage se fait surtout autour de la question de la guerre du Vietnam, qui rassemble dans un cortège pacifiste des libertariens et une gauche contestataire. Et puis donc, le mouvement se structure, petit à petit, il s'institutionnalise dans les années, disons, 1970, avec la création du Parti libertarien en 71, avec la création du Cato Institute en 77, et avec aussi, dans ces années 70, la systématisation d'une philosophie venant justifier ce positionnement assez inédit.
Et il continue d'exister aujourd'hui en tant que tel, ce courant libertarien aux États-Unis ?
Il existe, mais pas tel qu'il a existé dans les années 70. Alors bien sûr, il existe, il est même assez influent. Il y a encore le Parti libertarien aux États-Unis, qui est le troisième parti. Le dernier candidat à l'élection présidentielle libertarien a quand même rassemblé 4 millions de votes. Il a fait 3%, donc c'est le troisième parti aux États-Unis, même s'il reste très très marginal. Mais alors, il est influent, il y a tout un réseau de think tanks. En revanche, il n'existe pas tel qu'il existait dans les années 70-80, où il était alors concentrée autour donc du Parti libertarien, du Cato Institute. Aujourd'hui, c'est davantage diffusé. Hein. Il y a beaucoup de libertariens qui font de l'entrisme, notamment dans le Parti républicain. Il y a beaucoup plus de think tanks qu'il n'y en avait dans les années 70, qui permet d'exprimer des sensibilités très différentes. Et du coup, on a un libertarianisme qui dit moins son nom dans les années 70 et qui, paradoxalement, est sans doute plus influent.
Alors, comment se fait la rencontre entre, pour le coup, le personnage de Ayn Rand et ce courant libertarien naissant, parce qu'elle participe, disons, ou elle est un élément de la fondation de ce parti, puisque vous dites qu'il se constitue dans les années 60, mais la carrière d'Ayn Rand a commencé largement avant 1960. Alors, comment est-ce que vous pourriez raconter la trajectoire d'Ayn Rand depuis... Avant le libertarianisme et son essor et sa constitution, mais comment est-ce qu'elle en arrive à cette rencontre-là ? Donc ce serait en fait raconter la trajectoire politique d'Ayn Rand depuis ses débuts jusqu'aux années 60 et comment ça peut rencontrer cette aspiration politique-là, Sébastien Carré.
D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, la rencontre se fait bien avant, hein, puisque Ayn Rand est un petit peu plus âgé que ceux qui constitueront les troupes hein, des libertariens dans les années 60-70. Alors, la trajectoire politique d'Ayn Rand, elle commence assez tôt, en fait. Elle obtient la nationalité américaine en 31. Son premier vote, elle le donne à Roosevelt, parce qu'il promettait, ce qu'il a fait d'ailleurs, d'arrêter la prohibition. Ensuite,
C'est ça qui décide de son vote. C'est l'arrêt de la prohibition.
Oui.
D'accord,
oui,
donc c'est déjà libertarien, dire.
Oui, mais bon, on peut pas dire qu'à l'époque, elle le soit déjà. L'a-t-elle jamais été, d'ailleurs, on pourra peut-être en discuter. Ensuite, elle soutient le républicain Wilkie en 1940, hein, et c'est la première fois qu'elle s'engage vraiment politiquement. On la voit dans des meetings, on la voit écrire davantage. Puis, bon, elle abandonne un peu l'engagement politique, et on la retrouve seulement en 64, hein, puisqu'elle défend Barry Goldwater. Le candidat que soutenaient également les libertariens. Alors, la rencontre avec les libertariens, ensuite, elle décide à partir de 64 d'abandonner la politique. Le militantisme politique, dit-elle, est beaucoup trop précoce. Hein, il faut attendre de gagner les esprits, les universités avant de gagner les urnes. Et donc, elle s'abstient de tout soutien. Elle ne soutiendra pas Reagan en 80, par exemple, juste avant sa mort. Trop liée à la droite religieuse, selon elle. Alors, avec les libertariens... le lien est assez précoce, hein, puisque on voit dès les années 40, elle participe aussi de ce projet de défendre le libéralisme contre les conservateurs. Hein, dans les années 40, on la voit par exemple dans le cercle de ce qui est appelé la vieille droite, la old right américaine, isolationniste et très libérale d'un point de vue économique. Et elle côtoie hein, notamment Rothbard assez tôt et elle les côtoie davantage dans les années 50 jusqu'à bon, une petite rupture hein, intervenue à la fin des années 50 où bon, Rothbard par exemple décide de quitter, qui est la figure de proue du mouvement libertarien, décide de quitter le salon de Ayn Rand. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que, alors, il y a une porosité entre les deux cercles, hein, tous ceux qui participent au cercle objectiviste, au collectif, par exemple, vont aussi voir Rothbard et sont donc avec les libertariens. Mais ce qui se passe, vous avez dû en parler lors des autres émissions, à partir de 68, lors de la révélation de son aventure avec Nathaniel Brandon, eh bien, on va voir beaucoup d'objectivistes quitter le cercle randien, et voir finalement mouvement libertarien qui est en train de naître, qui est en train de se structurer, qui offre en fait asile à ces objectivistes déçus par Ayn Rand.
Alors Sébastien Carré, qu'est-ce que Ayn Rand apporte au mouvement libertarien ? Parce qu'il n'y a pas qu'elle comme théoricien du libertarianisme aux États-Unis, d'abord ça passe par d'autres femmes à un moment autour de la question de l'individualisme, puis par des théoriciens comme Rothbard, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce que elle apporte de singulier dans l'élaboration de cette espèce de mouvement Ayn Rand ? Est-ce que par exemple, c'est une hypothèse, est-ce que par exemple son travail romanesque joue un rôle important que n'ont pas joué les autres qui avaient des parcours plus théoriques ?
Elle occupe, notamment parce qu'elle a écrit des romans, une position très singulière au sein de la mouvance libertarienne. Car elle est assez old school, hein, c'est-à-dire qu'elle défend ce qu'on appelle une éthique de la vertu, conforme au modèle des anciens, hein, son modèle, la seule référence est Aristote, qui considère que la politique doit aider encourager les individus à devenir de plus en plus vertueux. Ce que ne font aucun des autres libertariens. Pourquoi ? Parce que eux défendent simplement un cadre social le plus juste et refusent de traiter la question des comportements moraux individuels. Hein, ils ne disent pas, par exemple, s'il est mieux de lire de la poésie que de pratiquer le jeu de quilles. Ils ne disent pas qu'il existe une conception particulière libertarienne de la vie bonne. Ils défendent ce que Ruhanogien appelait une éthique minimaliste. Hein. Tant que l'individu ne nuit pas aux autres, hein, on n'a pas à se soucier de son comportement. Il est libre de faire ce qu'il veut. Eh bien, Ayn Rand ne dit pas du tout cela. Ayn Rand renverse complètement la perspective, puisque pour elle, la priorité, c'est précisément de définir une éthique de la vertu individuelle. Hein, l'individu égoïste, l'individu qui doit se passer de l'aide des autres, qui doit vivre dans son seul intérêt. Et c'est seulement dans un second temps que Ayn Rand essaie de dégager les conditions sociales qui permettront justement aux individus d'accéder à cette vertu d'égoïsme. Et il se trouve que le cadre social le plus juste, c'est le capitalisme, c'est le moins d'État, c'est faire en sorte que les individus apprennent à se passer de l'aide des autres. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est ce que Milton Friedman disait déjà au sujet d'Ayn Rand. Il disait que cette pensée était source d'intolérance. Pourquoi ?
C'est-à-dire,
eh bien, les croyants, les communistes, les altruistes n'auraient pas droit de citer dans une société idéale à la ronde. Alors que beaucoup, pas tous, mais la plupart des libertariens essaient au contraire de ménager une place à leurs ennemis. Je pense par exemple à le modèle opposé à celui d'Ayn Rand, c'est celui de Nozick, hein, qui est un autre libertarien très connu, et qui propose dans le troisième tome de Anarchie, État, Utopie, un modèle qu'il propose de décrire comme une méta-utopie. Mmh. C'est-à-dire que pour lui, l'utopie libertarienne, c'est l'utopie qui rendra compossible toutes les autres utopies possibles. Hein, autrement dit, il imagine un marché, une concurrence libre entre plusieurs modèles communautaires qui s'affronteront hein, sur un marché libre et qui pourront être regagnés ou quittés librement par les individus. Donc c'est un commerce de communauté, d'utopie, mais Nozick dit en gros qu'il pourrait bien avoir dans l'utopie libertarienne, je ne sais pas moi, un phalanstère fourriériste, un kibbutz ou une société communiste. Hein. Et la plupart des libertariens, en distinguant la morale et le droit, hein, le juste et le bien, entendent justement proposer un modèle qui rend compatible, hein, qui assure une coexistence pacifique entre toutes les conceptions particulières de la vie bonne.
Mais alors, est-ce que même si les libertariens peuvent, d'une certaine manière, reprocher à Ayn Rand d'être trop exclusive ou trop sectaire, ou est-ce que malgré tout, elle n'a pas participé plus grandement peut-être qu'eux-mêmes avec leurs textes théoriques à l'expansion de ces idées libertariennes, parce que précisément, ces romans mettaient en valeur des personnages qui vivaient, alors selon des principes qui peuvent être peut-être un peu trop exclusifs pour le libertarianisme, mais qui quand même mettaient en valeur des principes forts du libertarianisme, l'individu, contre la société, l'égoïsme, qui est une autre version de l'individualisme, enfin bon, tout ça, et que du coup, elle a innervé les esprits, hein, c'est une hypothèse qui est très difficile à valider, évidemment, mais de manière peut-être plus prégnante que ne peuvent le faire des textes théoriques.
Alors, bien sûr, Ayn Rand a joué le rôle, si vous voulez, de rabatteuse. Hein, c'est elle qui a rameuté les troupes libertariennes. Il y a un livre qui décrit très bien cela. C'est un livre écrit par un militant libertarien qui s'appelait Jérôme Tuchilé, hein, qui était candidat pour être gouverneur de l'État de New York, et qui explique tout son itinéraire et qui donne pour titre à son livre « It usually begins with Ayn Rand ».
Tout commence avec Ayn Rand.
Voilà, ça commence souvent avec Ayn Rand. Effectivement, quand on regarde l'itinéraire, alors, il décrit son propre itinéraire, mais on vient au libertarianisme par Ayn Rand, et bon, par Ayn Rand, c'est-à-dire par la lecture de ses romans. Donc effectivement, hein, Ayn Rand, encore aujourd'hui, hein, est le point d'entrée dans la pensée libertaire.
Mais justement, quel statut ont ces romans aujourd'hui ? Parce qu'ils sont encore extrêmement lus. J'ai l'impression que c'est quasiment le passage obligé de tout jeune américain, un peu intellectuel, que de lire Ayn Rand. Il me semble un peu, je sais pas, comme la nausée de Sartre ou ce genre de choses, quoi, pour l'équivalent français, non ?
Je dirais que c'est pire ou mieux que la nausée.
Hein. C'est-à-dire ?
Mais c'est de plus grande ampleur encore. Hein. Alors, il y avait bien sûr Clinton qui disait, Hillary Clinton, qu'elle avait eu son époque Ayn Rand. On voit encore, alors, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques en France qui citeraient la nausée comme leur roman préféré, par exemple. Aujourd'hui, il y en a plein.
Mais dans tous les camps, c'est ça qui est compliqué à comprendre. Il y a des côtés des conservateurs type Paul Ryan, qui va dire qu'il est randien, alors que par ailleurs beaucoup de choses l'opposent à Ayn Rand parce qu'il n'est pas du tout libertarien. Lui, il est très conservateur. Voilà, il y en a d'autres. Je ne sais pas, par exemple, Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, se dit aussi libertarien, alors que lui, il n'est pas du tout conservateur. Par ailleurs, enfin, c'est très compliqué. On a l'impression que ça innerve dans des camps politiques qui sont extrêmement divers. Sébastien Carré.
Oui, et on peut ajouter à la liste, récemment j'ai vu que Rex Tillerson, qui est quand même le secrétaire d'État, donc l'équivalent de ministre des Affaires étrangères, lui aussi disait que son roman préféré était Atlas Shrugged.
Hein, et donc le roman La Grève en français.
La Grève, pardon, oui. Et le roman préféré de Trump,
c'est quoi?
C'est ce qu'il dit, il a déclaré ça il y a un an, c'est La Source Vive. Hein, il se compare lui-même à Howard Roark.
D'accord, donc l'architecte qui s'élève contre tout le monde, etc. Bah oui, il y a le lien évident qui est la question de l'immobilier pour le coup.
Voilà, en plus. Et il s'est longtemps identifié. Et il y a aussi, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, la couleur des cheveux de Howard Roark.
Ah, il est roux.
Qui est roux.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Et beaucoup de rapprochements sont faits entre Trump et... Mais oui, alors, et Obama également parlait d'Atlas Shrugged. Hein. Alors, pour en dire du mal, bien sûr, mais ça fait partie du patrimoine. Vous connaissez la fameuse statistique de la Bibliothèque du Congrès qui le plaçait dans 91, deuxième livre le plus lu après la Bible. Je sais plus, alors j'ai pas en tête les chiffres, mais je crois que chaque année, Ayn Rand vend au moins 100 000 éditions de chacun de ses romans. Hein. Et je sais qu'en 2009, par exemple, Atlas Shrugged était vendu à plus de 500 000 exemplaires.
Alors quels sont les moments, parce qu'il y a Ayn Rand pendant sa vie. Bon, alors du coup, peut-être qu'il faut qu'on revienne un tout petit peu là-dessus. Vous avez parlé des deux moments où elle s'engage avec les conservateurs et puis finalement se sépare de ça. Et à la fin de sa vie, elle est où politiquement, puisque vous nous aviez dit très rapidement, elle ne s'engage pas auprès de Reagan parce que il est trop pas assez athée, disons. C'est ça?
Oui, c'est ça. Et trop de références à la droite religieuse. Hein, elle dit sa dernière intervention publique. Elle est dit, on me demande ce que je pense de Reagan, je n'en pense rien, et plus je le vois, moins je pense. Hein, et c'est la seule fois que je la vois sourire. Hein, c'est la seule fois où elle rigole, puisqu'elle condamnait l'humour. Mais là, bon, elle était contente de sa blague, apparemment. Alors, en fait, à partir de 64, elle décide de cesser tout activisme politique. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle considère que le combat politique est trop précoce. Il n'a de sens que lorsque les idées objectivistes se seront suffisamment répandues dans la société américaine. Donc elle préfère aller voir les universités et écrire plutôt que de militer, d'où se tenir les candidatures de certains. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, à partir de cette date, c'est à ce titre qu'elle va condamner le Parti libertarien, hein, qu'elle va considérer comme étant même un crime moral.
Pourquoi ?
Alors, bon, déjà, elle n'aimait pas les libertariens. Pour elle, les libertariens, c'était des hippies de droite.
Elle détestait les hippies.
Oui, et donc elle détestait les libertariens. Hein. Parce que, bon, toutes ses ouailles, elle la quitte à la fin des années 60 pour rejoindre le pimpant mouvement libertarien qui était en train de s'institutionnaliser. Bon, elle n'aimait guère cela. Et puis, elle condamne quand même le parti libertarien en disant donc qu'elle préférerait même, en 72, qu'elle préférerait voter pour les Marx Brothers ou Jerry Lewis plutôt que de voter pour John Osperse.
Elle faisait quand même des bonnes blagues, tout en n'ayant pas le sens de l'humour.
Oui, elle condamnait l'humour. Hein. L'humour était pas un crime, mais presque. Et pire que tout, l'humour sur soi. C'était comme se cracher dessus que de... Bon. Donc oui, elle faisait des blagues malgré elle, parfois quand même, mais elle avait quand même un peu d'humour. Et puis le premier candidat libertarien en 1972, c'était l'un de ses protégés, hein, le philosophe John Osperse, qu'elle avait elle-même converti à l'objectivisme, bon, qui l'avait quitté, et donc c'était encore un argument pour condamner le parti libertarien. Donc non, elle a toujours condamné le parti libertarien.
Alors, mais quelle position elle défend? Parce que c'est ça qui est très compliqué. Alors, à comprendre pour nous Français, c'est quand même très étrange. C'est-à-dire que d'un côté, il y a effectivement une défense mordicus du capitalisme, le plus ultra-libéral, comme on le dirait aujourd'hui, comme le seul cadre dans lequel on peut s'épanouir. Et puis par ailleurs, à l'intérieur de ça, la défense de principes qui sont, elle est fondamentalement antiraciste. Elle ne comprend même pas le racisme. Il me semble qu'elle tient des positions de de défense des homosexuels, enfin qui n'est pas une défense des homosexuels en tant que telle, mais simplement elle ne voit pas pourquoi on pourrait condamner quelqu'un pour sa sexualité, il me semble.
Oui, alors elle est un peu plus ambiguë sur l'homosexualité. Elle considère que c'est une erreur psychologique.
D'accord, quand même.
Elle le condamne, elle dit qu'elle trouve cela répugnant.
Ah, quand même.
Oui, quand même. Non, j'aime ça pour bien préciser. Mais elle ajoute qu'elle ne voit pas pourquoi on l'interdirait. Alors, bon, sur l'antiracisme, elle est un peu plus claire.
On peut dire aussi, d'une certaine manière, qu'elle est assez féministe.
Là encore, je peux nuancer.
Nuancer, ok.
Effectivement, il y a des féministes qui se réclament d'Ayn Rand. En revanche, par exemple, Ayn Rand dit à plusieurs reprises que la femme doit être soumise, doit vénérer l'homme.
Ah, quand même, d'accord.
Dans, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans La Source Vive où Dominique Francone se réjouit de s'être fait violer, violer par Howard Roark. Ayn Rand disait également que jamais une femme ne pourrait devenir présidente des États-Unis.
Et pourtant, elle a livré à la littérature mondiale des personnages féminins qui sont incroyablement puissants.
Voilà. Et pourtant, on pourrait ajouter qu'elle a aussi défendu avec beaucoup de clarté cette fois le droit à l'avortement, hein, en disant que c'était le droit d'une femme de propriété sur son propre corps et qu'elle pouvait en chasser n'importe quel intrus, que le fœtus n'était qu'une pièce de protoplasme. Bien, donc, bon, pour ça, elle est claire. Mais en faire une féministe, il y a beaucoup de féministes qui hurleraient, hein, et à raison, hein, parce que, bon, même si certaines féministes aujourd'hui essaient de tirer Ayn Rand vers elle. Bon, il est quand même difficile de faire d'Ayn Rand une féministe.
Bon, d'accord. Et par ailleurs, elle défend des utopies, notamment l'utopie qui est développée dans Atlas Shrugged, la grève, qui pourrait, disons, si on y appliquait des critères moraux, sembler très atroce. Puisque ça fait fi de tout ce qui peut ressembler à une forme d'altruisme, refus complètement de protéger les faibles sous prétexte que chacun peut se protéger très bien par lui-même. Est-ce qu'il y a une forme, je sais que c'est un peu compliqué comme question, mais est-ce qu'il y a une forme de cohérence dans tout ça, selon vous, Sébastien Carré?
Bien sûr, je pense que vu d'ici, vu de ce côté de l'Atlantique, ce positionnement, qui est celui de tous les libertariens finalement, peut paraître schizophrène. Hein. Effectivement, associer une défense des libertés individuelles et en même temps une défense des libertés économiques les plus radicales peut paraître incohérent. Et c'est le principe de la liberté qui est projeté finalement sur tous les domaines de la vie sociale. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on considère que l'État doit se retirer dans la vie économique, eh bien, on doit aussi considérer qu'il n'est pas davantage légitimé à intervenir dans la vie privée, dans ce que l'individu fait de lui-même, etc. Donc, cette cohérence, c'est simplement la logique de la liberté, si vous voulez, qui est projetée partout. C'est une généralisation de cette liberté qui est purement négative, mais qui est projetée donc sur tous les domaines de la vie sociale.
Et alors, si comment se déroule l'expansion de la pensée randienne, ne serait-ce que mécaniquement, c'est-à-dire par quel réseau ça passe? Vous nous avez raconté un petit peu tout à l'heure, mais ça passe par des réseaux universitaires, beaucoup des jeunes, ça rassemble des populations qui sont au départ assez diverses. Comment ça fonctionne ça dans les années 60, un peu moins 70, et vous nous avez expliqué pourquoi, mais comment ça marche et de quelle manière ça influence, parce que vous nous avez parlé des lectures tout à l'heure, mais il y a autre chose que ça, il y a aussi une influence intellectuelle. Comment ça marche tout ça? Par quel canal ça passe? Quel rôle joue la télévision? Quel rôle joue tout ça?
Alors, dès les années 50, il y a un petit cercle qui se crée, mais le mouvement se développe à partir de 57 avec la publication de
La grève.
Et là, Nathaniel Brandon a l'idée de créer un institut, ce qui s'appelle le Nathaniel Brandon Institute, qui est assez influent à l'époque, notamment dans les années 60, et qui propose donc d'inscrire des étudiants, je crois qu'il y a plus de 3500 étudiants par an qui sont inscrits à l'Institut. Des cassettes sont diffusées et les étudiants prennent des cours auprès de Brandon. Ayn Rand également font aussi le déplacement sur les campus universitaires. Toutes les grandes universités ont vu quasiment Ayn Rand venir prêcher donc l'objectivisme. Et le réseau se crée ainsi. Alors, le Nathaniel Brandon Institute acquiert une certaine importance. Il occupe même tout un étage de l'Empire State Building. Je ne sais plus quand exactement, dans les années 60. Et Ensuite, bon, comme je vous l'ai dit, ça décline. Ayn Rand fait un peu le vide autour d'elle à partir des années 70. Mais des instituts, notamment à sa mort en 82, prennent le relais. Hein, il y a notamment, alors l'un de ses protégés, l'exécuteur testamentaire de Ayn Rand, Leonard Peikoff, qui crée le Ayn Rand Institute. Et puis, il y a à l'intérieur du mouvement randien, ce qu'on observe aussi dans le mouvement libertin dans les années 80, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Il y a une implosion, il y a plein de sécessions, des groupes font dissidence, et à l'intérieur même des réseaux randiens, il y a ceux qui s'opposent au sectarisme du Ayn Rand Institute, de Peikoff, qui refusent de considérer la pensée randienne comme un objet clos, un système fini, et qui surtout veulent renouer le lien avec le mouvement libertarien. Et on voit ainsi quelqu'un qui s'appelle comme David Kelly, qui va faire sécession, quitter le Ayn Rand Institute et en 91 créer la The Atlas Society, hein, qui est en gros le think tank qui représente les randiens les plus modérés. Hein. Donc on distingue les randroïdes.
Ah oui, ils ont des noms comme ça.
Les randroïdes, c'est pour se moquer de ceux du Ayn Rand Institute qui sont très sectaires et très fidèles à Ayn Rand. Et puis les randiens, ce seraient ceux de... The Atlas Society.
Et Sébastien Carré, est-ce que selon vous, ces éclatements qui ont des divergences explicables ou peut-être moins explicables, est-ce que ça correspond à la vie normale de groupes politiques qui connaissent des scissions, des divergences, etc. Ou est-ce que ça dit quelque chose de l'ambiguïté ou les complexités de la pensée d'Ayn Rand et même l'écart qu'il pourrait y avoir entre ce qu'elle défendait philosophiquement et sa propre vie, hein, qui a été très différente de ce qu'elle défendait. Est-ce que ça peut s'expliquer aussi par ça, par une pensée qui, au final, et parce qu'aussi elle passait beaucoup par la littérature, était beaucoup plus pleine de contradictions qu'on a bien voulu le croire?
Oui, alors bien sûr, toute la vie d'Ayn Rand est une contradiction avec sa propre pensée. Hein. Elle disait que sa vie était la postface à ses romans. C'est pas du tout vrai. Hein. On voit l'épisode avec Nathaniel Brandon. On sait qu'à la fin de sa vie, Ayn Rand avait pris le nom de son mari, Anne Connor, pour bénéficier du programme Medicare
pour
financer son le cancer des poumons qu'elle avait depuis 1974. Ah, oui. Ayn Rand disait, alors c'est amusant cette contradiction aussi, elle se comparait toujours à ses personnages de romans, elle en était presque l'esclave d'une certaine manière. Et après Atlas Shrugged, la grève et des recensions peu aimables à son endroit, elle était tombée en dépression et elle racontait qu'elle ne supportait pas. Elle dit que John Galt, le héros de la grève, aurait su surmonter cela et qu'elle ne supportait pas, elle ne supporterait pas de savoir que John Galt la verrait dans cet état-là.
Et au final, c'est ce qui est assez beau dans tout ça, dans cette histoire d'Ayn Rand, c'est qu'elle prouve l'énorme difficulté à vivre selon les principes absolutistes qu'elle défend. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectivisme n'est pas possible.
Eh ben, c'est la thèse que je défends aussi. D'autres diraient qu'elle a quand même vécu assez proche de ses personnages de romans. Non, hein, je pense que... Et elle le dit à la fin de sa vie, quand on lui dit que ses personnages même ne sont pas probables, ne sont pas crédibles, elle dit, mais ne suis-je pas moi-même un personnage improbable ?
Ah, ce qui est une belle phrase. Merci beaucoup Sébastien Carré. Et on continuera demain ce « avoir raison ou pas », parce qu'il n'est pas certain qu'il faille complètement avoir raison avec Ayn Rand, avec Antoine Bello, l'écrivain Antoine Bello, qui nous parlera de la puissance romanesque des textes d'Ayn Rand. Merci beaucoup, bonne journée. C'était « Avoir raison » avec Ayn Rand, une série de Xavier Delaporte. Prise de son, Claire Levasseur et Benjamin Vignal. Réalisation, Guillaume Balbi.